Carrefour.
Quand vous me dites « Carrefour baisse ses prix !»
Eh oui, et de 10% en moyenne parmi vos produits préférés d'hygiène et d'entretien. Comme la boîte de 30 protèges slip larges Carrefour Soft qui passe de 1,36€ à 99 centimes, soit 27% moins cher. Et c'est chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur carrefour.fr.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. Prix baissé à compter du 1er avril 2024 par rapport au prix permanent des produits. Détail et liste des produits concernés sur carrefour.fr.
Vous écoutez
RMC. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Rémi Barré.
Estelle Midi, tous les jours, midi 15h sur RMC et RMC Story, c'est le canal 23 de la TNT. Estelle n'est pas là aujourd'hui, mais elle sera de retour avec nous dès lundi. Autour de moi aujourd'hui, Thibaut Texer, journaliste RMC, Perico Legas, journaliste à Marianne, Mathilde Himmer, militante écologiste, et Pierre-Édouard Magnan, militant associatif. Dans un instant, 35% des salariés préfèrent être au chômage plutôt que malheureux au travail. Et vous, d'accord, pas d'accord, vous nous appelez au 32-16. À 13h30, ce sera le meilleur du jour sur RMC avec notre zapping. À 14h, ZFE chasse au diesel. Route dégradée, l'État sacrifie-t-il les automobilistes? À 14h40, les immanquables de Thibaut Texer. Et puis, on joue encore aujourd'hui, Thibaut.
À gagner cette semaine, un séjour à la montagne en club. Une semaine en club MMV au cœur de la Plagne. Une chambre familiale avec vue imprenable sur le domaine. Forfait matériel de ski sont compris pour cela. Vous vous inscrivez en envoyant neige au 732-16. Neige au 732-16.
RMC Estelle Midi.
C'est le choix du jour. D'après le dernier baromètre du groupe d'intérim Randstad, 35% des Français préfèrent rester au chômage plutôt que d'être malheureux au travail. Thibaut, la qualité de vie au boulot serait désormais un critère déterminant.
Et c'est une exigence pour les Français. 57% n'hésiteraient pas à refuser un emploi qui ne permet pas d'équilibre entre la vie personnelle et professionnelle. Le télétravail est également plébiscité. C'est pour 3 Français sur 4. La flexibilité du lieu de travail, elle est essentielle. Comment expliquer cela? Tout d'abord parce que les Français ont moins peur de perdre leur emploi. Seuls 24% des salariés ont à ce jour peur de cela. C'est beaucoup moins que la moyenne mondiale, évaluée à 37%. Une nouvelle organisation de travail appréciée par 9 salariés sur 10 concernés, selon une étude de la Fédération de l'assurance CFE-CGC menée au début du mois. À titre d'exemple, 67% des Français y trouvent une meilleure équilibre, un meilleur équilibre de vie. Pour autant, le télétravail représente aussi des craintes, celles d'un isolement redouté par 4 salariés sur 10 qui voient une dégradation de la culture d'entreprise. Enfin, les salariés se montrent à une très large majorité favorable à la semaine des 4 jours, un pas franchi par quelques entreprises en France, un dispositif existant sous certaines conditions en Belgique et en Espagne.
T'es heureux au travail, Thibault ?
Moi, je suis très heureux.
Bon, très bien. Dans un instant, je vous pose la question, vous serez avec nous au 32-16. 35% des salariés préfèrent être au chômage plutôt que malheureux au travail. Est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord ? Le 32-16, donc, pour réagir. Mathilde Himmer, est-ce que si tu étais malheureuse dans ton travail, aujourd'hui ton travail c'est ta passion, mais si tu étais malheureuse un jour dans ton travail, est-ce que tu préférais être au chômage que d'y rester?
En général, je change de travail, donc c'est difficile pour moi de répondre à cette question. Je me suis reconvertie il n'y a pas très longtemps en menuiserie, j'adore ce que je fais. En revanche, je peux comprendre. Moi, j'entends de plus en plus de gens qui adorent leur boulot et qui en sont presque dégoûtés tellement on leur met un cadre qui devient insupportable. Je prends un exemple, là, encore hier, j'étais avec une amie infirmière qui me dit, en fait, c'est plus possible de faire correctement et bien mon métier. J'ai 2 minutes pour mettre un bas de contention, j'ai 5 minutes pour faire une picouse. Et cette espèce de rythme-là qui est donné fait que finalement, les infirmières n'ont plus le temps de prendre le temps avec le patient, de l'accompagner, de voir véritablement ses besoins, d'avoir un temps d'écoute, de parole aussi, et ont l'impression de mal faire leur boulot. Et quand t'as la sensation de mal faire ton boulot, bah t'as plus du tout de plaisir à le faire. Et donc tu finis par te dire, bon bah en fait, je m'en vais. Et c'est aussi, je pense, pour ça qu'il y a plein de métiers où aujourd'hui beaucoup de gens sont en train de partir ou qu'on n'arrive plus à recruter. Donc il y a une question au-delà de la qualité du travail, du télétravail, du lieu de travail, etc. Je pense qu'il y a aussi une espèce de logique dans laquelle on est rentré, de rentabilité. Ouais, il y a aussi une question de sens, évidemment. Moi, c'est pour ça que je suis devenue menuisière, c'est qu'il y a un moment où je trouve que...
Tu faisais quoi avant?
Avant, j'ai eu plusieurs boulots, mais militante climat pendant un temps à temps plein. Avant ça, j'ai bossé côté gouvernement sur les questions écologiques pendant la COP21. Donc, bref, j'ai eu, moi, plusieurs boulots. J'avais ma propre boîte où je faisais aussi des différentes activités. Mais je me suis toujours plu dans ce que je faisais. Ou quand je me plaisais pas, je changeais. Mais moi, j'ai la possibilité de changer. C'est cette chance de pouvoir me reconvertir, de faire ça. Il y a plein de gens qui se retrouvent piégés. Je prends mal l'exemple de ma sœur. Qui a trois enfants, en bas âge, c'est vachement plus dur de te reconvertir quand t'es dans cette situation. Et pour autant, est-ce qu'ils doivent accepter des conditions de travail qui se dégradent? Je sais pas. Donc je trouve qu'il y a une vraie réflexion à avoir sur le travail aujourd'hui.
Pierre-Edouard Magnan.
Bah, évidemment que, moi, de mon point de vue, évidemment que mieux vaut être au chômage que malheureux au travail. J'ajoute tout de suite, en fait, mieux vaut être heureux au travail. Parce que le point de départ, c'est quand ça.
C'est-à-dire
que si le choix, c'est le chômage ou le malheur au travail, c'est pas un choix. On en est victime. Mais des deux mots, choisissons le moindre. Mieux vaut ne pas travailler que d'être malheureux au travail. Après, le drame, voilà, c'est comment aujourd'hui, pour une immense, de plus en plus de gens en tout cas, le travail devient une source de souffrance, d'incompréhension, de difficultés, ne permet plus forcément d'en vivre, ce qui est son premier sujet. Le travail, ça doit être d'abord une source de revenus, et c'est quand même pas toujours le cas dans notre pays pour plein de gens, et ensuite une source d'épanouissement. Épanouissement, ça peut être la reconnaissance du travail que l'on fait, le sens du travail que l'on fait, des perspectives d'évolution. Je fais ça aujourd'hui, je pourrais bouger, je pourrais me reconvertir, etc. Sauf que ça, aujourd'hui, c'est de moins en moins vrai. C'est réservé à certains types de populations, c'est réservé à certains milieux sociaux, dans le sens aussi les réseaux, la connaissance, la capacité à rebondir. Évidemment, des situations de famille, une mère seule avec trois enfants, elle n'a pas la même capacité de rebond qu'un jeune de 25 ans qui sort de ses études ou qui a fait un premier boulot et qui lui plaît pas. Enfin, je veux dire, c'est une évidence. Donc, comment après la société, effectivement, accompagne ça? Parce que derrière, quand on a un travail qui rend heureux et qui épanouit, c'est là que le travail redevient, pour encore prendre un vieux mot, émancipateur. Mais c'est parce que c'est ça le rôle du travail. Et qu'on arrêtera de parler de la valeur travail, qui moi me fait vomir, pour parler de la valeur du travail, qui là est essentiel. Mais ça colle avec un très récent sondage où, il y a 30 ans, le travail était entre guillemets, la valeur principale pour 60% des gens. Aujourd'hui, c'est 24%. Les gens ne veulent plus attendre d'être à la retraite, même à 64 ans, pour être heureux. Ils veulent être heureux en même temps qu'ils travaillent. La société a changé. Il va falloir qu'on en prenne compte.
35% des salariés préfèrent être au chômage plutôt que malheureux au travail, Péricourt.
C'est un tournant mental et civilisationnel.
Ouais. Un tournant de civilisation.
Ouais. Je comprends ce que ça veut dire. Ça me heurte terriblement. J'en veux pas aux gens qui disent ça. J'en veux à la société. On en est arrivé là. Le travail, le chômage n'est pas une option. On ne choisit pas entre « Ah, je travaille » ou « J'ai le chômage ». Le chômage est une fatalité.
C'est un filet de sécurité.
Mais en soi, c'est un déshonneur d'avoir perdu son boulot. On est victime d'un système quand on est au chômage. Ou alors, on a fait des bêtises, on a perdu son boulot. Mais ce n'est pas un choix de société. Et là, aujourd'hui, on est en train de présenter comme « Bon, ben, vous pouvez travailler, mais alors, si ça ne vous plaît pas, c'est-à-dire si vous n'avez pas envie de travailler pour amener de l'argent, alors est-ce qu'on a une famille, est-ce qu'on a des gens à nourrir ?» Je peux vous dire, quand on a des gens à nourrir, et moi, on m'a toujours posé la question, quoi qu'il m'arrive, et je suis plutôt dans des activités professionnelles plutôt agréables à faire, j'aime ce que je fais, mais si demain je devais faire un boulot fastidieux, contrariant, humiliant, pour amener de l'argent à la fin du mois et nourrir mes enfants et ma famille, je n'hésiterai pas une seule seconde, je maugréerai, je me plaindrai, mais je prendrai l'option chômage, vraiment, si je ne trouvais rien.
Parce qu'il y a cette idée-là, Péricourt.
Partir du principe que je vais voir, puis si ça me plaît pas, ben j'irai au chômage.
Ouais,
c'est pas acceptable.
Mathilde, il y a cette idée-là quand même dans ce chiffre. Cette idée-là, en tout cas, je ne sais pas si c'est la réalité, mais un certain nombre de ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent le pensent. C'est certaines personnes qui se disent j'en ai ras-le-bol, c'est bon, il me gonfle au boulot, je me mets au chômage, et puis après on verra.
Donc je suis assisté. Donc je vais à l'assistanat.
Il y a cette idée-là, comme c'est qui peut arriver.
C'est dingue.
Alors que le chômage n'est pas prévu pour ça.
Ça peut toujours arriver. D'abord, l'immense majorité des gens, j'ai même été directeur d'un centre d'accueil de jour, donc c'était non seulement des chômeurs, mais c'était même des publics de rue. Donc on peut difficilement faire plus loin dans la précarité. Chaque fois qu'ils sont arrivés dans le local de l'association que je dirigeais, leur première demande, y compris quand ils étaient parfaitement incapables de le faire, c'était « trouvez-moi du travail ». Y compris quand on n'aurait pas imaginé deux secondes les mettre au travail pour des tas de raisons, et notamment des raisons sanitaires.
Oui, mais enfin, c'est des gens qui étaient éloignés du travail depuis un moment.
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois dans les têtes des gens, leur première demande, c'était quand même et toujours « trouvez-moi du travail », y compris quand c'est pas leur sujet.
Tu sais très bien de quoi je parle. Je parle quand même, parce que on va pas se cacher derrière notre petit doigt, il y a quand même... On l'entend très souvent d'ailleurs, vous nous appelez au 3216 pour réagir. Un certain nombre de ceux qui nous appellent au 3216 nous disent « Voilà, moi j'ai un voisin, moi j'ai un cousin. »
Ah oui. Mais oui.
Non mais
moi je connais quelqu'un.
C'est peut-être une légende urbaine, mais c'est l'idée. Il prend un boulot, il y reste 6 mois, puis au bout de 6 mois, son patron, j'en ai ras-le-bol, il me casse les pieds. Je me mets au chômage, je reste au chômage pendant quelques mois et après je verrai bien.
Mais il y a toujours eu des assistés. Il y en aura.
Je viens de le prononcer le mot assisté.
Mais là, ça devient une option. Dans la question que vous avez posée,
si je peux parler. Il y a toujours eu ceux qu'on appelle des assistés et je pense qu'il y en aura toujours. Je pense que ça fait partie de la société. Quand tu regardes, je prends un autre exemple qui va peut-être vous paraître bizarre. Les fourmis. Il y a des expériences qui ont été menées qui sont une espèce très travailleuse. On sait que c'est vu comme ça. Ils ont retiré les 3% de fourmis qui ne faisaient rien dans cette société très travailleuse. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la société de fourmis reproduit et reconstruit elle-même ces 3% de personnes qui ne font soi-disant rien et qui pourraient être vues comme des assistés. Parce que ça fait partie d'un certain équilibre. Moi, je pense que là où il y a des équilibres, là où on se trompe, c'est qu'il y a un lien qui est fait entre ces quelques personnes et la fuite d'argent qui fait qu'on n'a plus de services publics qui fonctionnent, que les trains n'arrivent pas à l'heure, que l'école ne marche pas. Or ça, on ne tape pas au bon endroit. L'argent, il ne part pas pour payer le chômage de quelques personnes. L'argent, aujourd'hui, parlons des dividendes, on a encore une année record. Désolé, je lisais ce matin, on peut prendre 2 ans à 68 millions de personnes, mais on ne peut pas prendre 2% à des milliardaires, à 109 milliardaires.
On est sur un débat de valeur, là, tu as raison.
Il y a un moment, on est sur un débat de valeur. Elle est là, la question.
On va au 32-16, retrouvez Laurent. Bonjour Laurent.
Bonjour toute l'équipe.
Merci de nous rejoindre. Bonjour Estelle Midi sur RMC, RMC Story, et le canal 23 de la TNT. Laurent, vous nous appelez depuis le département de l'Oise.
C'est ça, tout à fait, Réfauche-Martin.
J'ai pas entendu.
Réfauche-Martin, dans un petit village.
D'accord, très bien. Laurent, vous faites quoi dans la vie?
Je suis pâtissier dans la grande distribution.
D'accord. Si un jour, votre responsable de magasin vous casse les pieds, est-ce que vous préférez, et que vous êtes malheureux dans votre travail, est-ce que vous préférez être au chômage ou y rester?
Ah ben, je suis pas avec d'accord avec Perico, je suis pas un assisté, mais par contre je me mettrai au chômage et c'est ce qui va certainement se passer aujourd'hui.
Ah, ça se passe mal au boulot?
Alors ça se passe mal, oui, parce que déjà on a été racheté par on est passé en franchise, on va dire, on va appeler ça comme ça.
D'accord.
Et donc on a été racheté par un groupe et aujourd'hui les conventions collectives ont changé dans 15 mois et on ne sait pas ce qu'on va devenir. On aura peut-être plus les mêmes acquis que nous avons eu il y a 30 ans, parce que moi il y a 31 ans que je suis dans la boîte.
Ah ouais.
Et donc aujourd'hui je suis en maladie professionnelle et aujourd'hui je vous avoue honnêtement que me faire licencier, c'est pour moi le meilleur choix que j'ai à faire.
Je vais pas être trop intrusif, maladie professionnelle parce que c'est psychologique, vous y arrivez plus?
Non, c'est parce que ce sont des gestes répétitifs que
d'accord,
nous
rien à voir. OK.
Rien à voir.
D'accord, OK.
C'est la souffrance au travail.
Pierre-Edouard?
Je dis, c'est typiquement ça, la souffrance au travail. Je veux dire, c'est pas juste, oh, mon chef, il me casse un peu les pieds. Je veux dire, ça, enfin, les gens qui disent, je pars au chômage parce que mon chef, il est pas cool. Je veux dire, on m'en trouvera toujours un. Mais c'est pas ça, la réalité, c'est aussi ça, la souffrance au travail. Et la souffrance au travail, au-delà du cadre du travail, simplement qu'à un moment, ça fait 30 ans. Alors, c'est bien, ça fait un écho sur le sujet des retraites, d'ailleurs. Mais ça fait 30 ans qu'il fait des gestes et que d'un seul coup, on change le cadre de travail, on change les règles du jeu. La convention collective, c'est les règles du jeu. On change les règles du jeu sans demander leur avis aux salariés. Il y a un moment, ils disent, moi, c'est non. Peut-être qu'il y a 40 ans, notre auditeur n'aurait pas dit la même chose. Parce que oui, les mentalités bougent. Sauf qu'à un moment, c'était pas forcément mieux avant, mon cher Perico.
Vous êtes pâtissier, vous êtes quand même artisan dans votre esprit, même si vous travaillez en grande distribution. Vous n'avez pas envie de trouver votre boulot de pâtissier dans une vraie pâtisserie? Vous savez, il y a beaucoup de demandes aujourd'hui. On n'en cherche pas tous des pâtissiers. Trouvez quelque chose qui vous plaise, ou si vous épanouissez, faites un métier merveilleux. Vous êtes en train de me dire, j'en ai marre de mon patron.
Perico, laissez-le répondre.
Oui.
Laurent.
Non, alors, pour être honnête, non. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie d'avoir une vie normale. C'est-à-dire que j'ai envie de travailler comme tout le monde, du lundi au vendredi, et ne plus travailler les samedis, plus travailler les dimanches, comme on va nous l'imposer aujourd'hui. Voilà, d'avoir une vie dite normale.
Donc là, vous préférez le chômage, quoi, finalement. Plus rien.
Oui, c'est vrai que c'est pas normal de dire ça, mais aujourd'hui, ce que je ne comprends pas, ma façon de penser, elle est qu'à 50 ans, je devrais avoir peur du chômage parce qu'à 50 ans, on a beaucoup de mal, je pense, à retrouver du boulot. Alors que quand j'avais 20 ou 30 ans, je ne voulais pas partir.
Mais là, vous n'en avez plus peur du chômage, Laurent?
Non, honnêtement, pas du tout. Parce que je pars du principe que je peux aller dans les boîtes d'intérim, etc., etc. Comme vous le disiez il y a quelques minutes, trouver des petites missions qui vont durer 3 à 6 mois et finir ma carrière professionnelle sur ce cheminement-là.
En alternant intérim et chômage.
Par exemple.
Reste avec nous, Laurent. Il y a Bruno qui nous rejoint au 32-16. Bonjour, Bruno.
Oui, bonjour à toute l'équipe.
On est à Chaumont, en Haute-Marne, Bruno.
Tout à fait.
Vous faites quoi dans la vie?
Je suis retraité, comme vous le savez. Je suis déjà intervenu sur votre antenne. J'ai 72 ans. Je pose tout de suite le débat. Ma première fiche de paye, Pour ma dernière, j'avais 66 ans, j'ai changé 5 fois de travail.
Voilà. Quand vous entendez, Bruno, ce que dit Laurent, comment vous réagissez?
Je fais des bons parce que je suis un vieux con, je vais rejoindre Perico. Voilà.
Mais je suis un vieux con.
Moi, mis des coups de pompe dans le derche quand je faisais mal mon boulot ou quand j'écoutais pas à l'école. J'ai créé ma boîte, j'ai été chômeur 6 mois dans ma vie pour rebondir sur le travail. Dans la vie, il faut avoir de l'ambition et être courageux. J'avais aussi 2 enfants à nourrir. Quand j'entends toutes ces pleureuses à l'antenne du soir au matin, ça me désole. Je suis effaré. Je le redis, je suis le vieux con de service. Alors franchement, la France, à ce rythme-là, moi j'ai eu la chance de connaître le général de Gaulle, mon grand-père travaillait pour lui. La France, je l'ai vu monter, j'étais donc binôme, monter sous de Gaulle, stagner sous Giscard, commencer à se planter avec Mitterrand, et quand je vois où on en est, quand j'entends tous ces 2 millions qui ont défilé hier, les pauvres, ils ont 50 ans, ils portent des bébés, ils ont mal à l'épaule. Non mais attendez, à mon époque, quand j'étais minot, les mecs qui partaient à la retraite à 65 ans, puis ils fermaient leur gueule. J'en ai ras-le-bol de ce pays, ras-le-bol, et ras-le-bol d'entendre ces discours qui sont démotivants, c'est des discours de fainéants et de mentis. Voilà, je suis désolé, c'est le cœur qui parle, mais franchement, j'en ai par-dessus la tête.
On le sent bien, Bruno, restez avec nous, c'est un cri du cœur. Laurent, vous êtes là, Laurent?
Oui, tout à fait.
Vous entendez ce que dit Bruno? Bon, il est abrupt dans ses propos, mais il le dit lui-même. Je suis un vieux con, mais c'est comme ça. Ça vient du cœur. Vous pouvez entendre ce que dit Laurent, ce que dit Bruno.
Oui. Alors oui, je vais vous dire oui. Je vais vous dire pourquoi. Parce que je suis un petit peu dans la même façon de penser que Bruno. Sauf qu'aujourd'hui, moi, je n'ai jamais dit que j'allais profiter du système. J'ai juste dit que pour rebondir, je préfère être au chômage aujourd'hui et je vais pouvoir rebondir sur une autre activité.
Ah mais c'est autre chose, d'accord.
D'accord.
C'est donc bien de préciser.
Attention, je préfère évidemment être au chômage parce que dans l'entreprise dans laquelle je travaille depuis 31 ans, ma façon de voir les choses et celle de l'entreprise ne correspondent plus, d'accord. Voilà mon discours. J'ai aussi une maladie professionnelle qui fait que je préfère aussi être au chômage, mais je n'ai jamais dit que j'allais profiter du système. J'ai toujours travaillé. Depuis 1991, je suis dans cette entreprise. J'ai toujours été dans l'entreprise.
Oui, enfin, Laurent, je me permets, mais tout à l'heure, vous nous disiez, vous avez 51 ans, c'est ça?
C'est ça, je vais avoir 51 ans.
Ok, vous nous disiez tout à l'heure, ma fin de carrière, pourquoi pas alterner comme ça, intérim, période de chômage.
Mais attention, entre alterner période de chômage et intérim, ça ne veut pas dire qu'on peut profiter forcément du système. Parce que si je travaille dans une intérim et que le patron...
c'est quand même le système qui vous permet ça, Laurent.
Ah, complètement. Et attention, effectivement, je suis content d'être en France parce que je peux bénéficier de tout ça.
Bruno.
Je suis là.
Comment vous réagissez à ce que dit Laurent?
Je réagis, je suis désolé. Voilà. Ce monsieur, il fait un choix. Moi, je vous ai dit, sur 47 ans d'activité, j'ai fait 6 mois de chômage pour essayer de trouver un autre boulot. Mon dernier boulot, je l'ai pris à 55 ans. Je faisais 100 000 km par an. Je dormais 5 jours à l'hôtel parce qu'aucun jeune ne voulait le prendre. Bon, ce qui me désole dans ce raisonnement, je réponds à votre question. Les Français préfèrent être au chômage plutôt que d'être malheureux dans leur emploi.
35% d'entre eux.
35%, ok. Bon, je suis désolé, les 35%-là, deux coups de pompe dans le derrière, et puis il n'y en aura plus que 25, point barre. Y a, de toute façon, il y a 10% d'irréductibles dans ce pays, qui sont incapables, qui veulent, vous l'avez dit vous-même, je crois que c'est Pirico ou quelqu'un d'autre, en France, on veut travailler le moins possible, gagner le plus possible. C'est pas possible, ça ne marche pas, c'est mathématique. 2 plus 2, ça fait 4, ça fait pas 5. Voilà.
On n'arrivera pas à réconcilier Bruno et Laurent, ça c'est sûr. Mais merci d'avoir été avec nous, Bruno qui nous appelait depuis Chaumont en Haute-Marne, Laurent qui nous appelait depuis le département de l'Oise. Vous continuez à nous appeler au 3216. Mathilde, je sais que tu voulais réagir lorsque tu entendais parler Laurent et Bruno, cet échange entre les deux.
Je trouve que l'échange qu'on vient d'avoir, c'est diviser pour mieux régner. Il y a des gens qu'on n'entend pas, qu'on ne voit pas, qui s'appellent les actionnaires, qui touchent des dividendes monstrueux. Et eux sont invisibles dans ces sociétés, alors que là, on vient d'entendre un échange où, en gros, un ancien retraité qui a bossé toute sa vie tape sur un pâtissier qui a bossé pendant 30 ans, 40 ans, et qui dit là, je vais prendre quelques mois pour aller au chômage. On est en train de se taper les uns entre les autres pendant que l'argent file là-haut. C'est ça, moi, qui me désole. Encore une fois, dividende record, 40 milliards là, qui sont tombés. Record, c'est dans le Figaro, c'est dans les Échos, dans tous les médias de droite. Et ici, on n'en parle pas. Moi, j'aimerais bien qu'on invite des actionnaires, j'aimerais bien qu'on invite un peu ces gens-là, qu'il y ait des visages, qu'il y ait des noms, que les gens voient où partent leur argent, plutôt que taper de leurs voisins et leurs copains, qui franchement sont quand même des gens qui bossent globalement.
Ça ne résoudra pas le problème. Perico. Même si tu les taxes, les gens qui préfèrent aller au chômage que de bosser...
Bah déjà, on bossera peut-être 2 ans de moins, parce qu'on aura une retraite qui restera sous 62
ans. Mais là, c'est pas le sujet de, là, c'est pas le sujet de ce débat. Le sujet de ce débat est très précis. Est-ce qu'aujourd'hui, en République française, où les lois sociales te permettent de te réfugier dans le chômage si tu n'as plus envie de bosser parce que ton boulot ne peut pas...
Il n'a pas le temps comme Perico, là.
Parce que le taux, attention, et si on avait un... Le jour où le chômage sera dérisoire, cette option mourra.
Perico n'a pas tort. Je vais prendre un autre exemple. On parle du chômage, mais c'est un peu le même sujet. Enfin, il y a le RSA. On sait. Alors, la faute à qui, je ne sais pas. Mais on sait qu'aujourd'hui, le RSA en France, ça coûte une blinde, comme dirait l'autre, et que ça ne fonctionne pas. Un tiers, je crois que c'est à peine un tiers des gens qui bénéficient du RSA aujourd'hui bénéficient. Et je dis bien bénéficie d'un suivi pour retrouver un emploi. Le RSA, c'est le revenu de solidarité actif. Normalement, quand tu touches ce revenu, le minimum, c'est que tu n'as pas de travail et que tu t'engages à en chercher un. Et tu dois être accompagné pour le trouver. Aujourd'hui, ça ne fonctionne pas. Il y a des gens qui sont au RSA, je ne sais plus, j'ai plus les chiffres en tête, mais depuis 7 ans, 10 ans, 15 ans.
Mais tout est lié. Quand on est passé de 60 à 62 ans sur la retraite, qu'est-ce qui s'est passé ? On a une augmentation de 157% des seniors au RSA. Il y a une espèce de trappe, là, de sas de pauvreté qui s'est créée, où les gens n'ont plus le droit, n'ont pas encore le droit à la retraite, et n'ont pas encore le droit, et n'ont plus le droit au salaire, donc qui sont au RSA, en inaptitude, en allocation adulte handicapé, selon les situations. En fait, c'est qu'on raisonne sujet par sujet, alors que tout se tient. Il y a un moment où la question du travail, elle est centrale, mais elle se réfléchit aussi à des moments de hors travail, comment ça se passe, des conditions de travail dans lesquelles on évolue, et des mentalités qui aussi changent, et tant mieux.
Patrice est avec nous au 32-16. Bonjour Patrice.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre sur RMC, RMC Story. On est dans les Alpes de Haute-Provence.
C'est ça.
Quel joli nom de commune, ça s'appelle Oraison.
Tout à fait.
C'est joli,
Oraison. Oh, c'est joli ça.
Patrice, vous êtes sans emploi actuellement, c'est ça ?
Ouais, je me suis mal mis, j'ai vu avec mon patron pour me mettre au chômage. D'accord.
Vous vous êtes mis d'accord avec votre patron pour pouvoir être touché au chômage.
Parce que j'avais atteint tous mes buts, tout ça. Et pourtant, je gagnais très bien ma vie. Je gagnais de 5 000 à 28 000 euros net par mois.
Ouh, vous faisiez quoi ?
J'étais commercial dans les énergies renouvelables.
Ouais. Mais pourquoi ce choix de vous mettre au chômage ?
Ben parce que ça ne me plaisait plus. Ça ne me plaisait plus.
Vous vouliez faire autre chose.
Et je voulais faire autre chose.
Oui, mais alors, je vais me faire le porte-parole d'un certain nombre de personnes qui nous écoutent. Qui vous empêchait, tout en restant en poste, de chercher autre chose, travailler pour vous reconvertir. Là, vous profitez quand même. Je me fais le porte-parole d'un certain nombre de gens qui nous écoutent. Alors, mais vous profitez un peu du système quand même.
Bah oui, tout à fait. Je vais en profiter 3-4 mois. Ce que je vais faire, du temps pour retrouver une entreprise, pour retravailler dedans ou créer une entreprise.
Si tout le monde fait ça, le chômage, il pèsera pas. Pour les indemnités chômeurs, elles ne vont pas durer des siècles.
Tout le monde ne gagne pas 28 000 euros. Voilà. Je veux dire, je rappelle quand même dans ce pays que près de 2 chômeurs sur 3 ne sont pas indemnisés. Donc j'aurais quand même toujours qu'on rappelle de quoi on parle. 28 000 euros. Le RSA, de toute façon, n'est pas là pour trouver du boulot. C'est un revenu minimum pour essayer que les gens ne meurent pas de faim. Il faut arrêter de nous faire croire ça. Quand vous êtes à 500 balles par mois, vous avez plein de soucis dans la vie avant même de trouver du boulot. Comment vous loger, vous vêtir, nourrir vos enfants, vous déplacer, etc. Donc c'est évidemment une hypocrisie. N'oubliez jamais qu'un allocataire du RSA qui n'est pas accompagné, qui n'est pas à Pôle emploi, il n'est pas dans les chiffres du chômage. Patrice, donc le chômage baisse.
Patrice, vous êtes toujours là, Patrice ?
On est au-delà de l'enjeu, là.
Vous gagnez combien aujourd'hui au chômage ? Enfin, vous touchez combien ? Vous êtes indemnisé de combien ?
2500 euros.
Net ?
Combien ?
Net.
2000.
Il est presque au plafond.
Ouais.
Il y a un plafond. Je veux dire, 2500 fois les 3-4 mois que vous nous avez dit, on est sur des sommes qui sont importantes, mais c'est pas ça qui ruine le fonctionnement de notre système.
Non, mais c'est le principe. De, quand France... on a eu le boulot qu'a eu Patrice, 28 000 euros, c'est ça.
C'est ce qu'il nous a dit. Hein.
Bon, mais on a la marge pour pouvoir trouver autre chose, vous voyez.
Je suis d'accord avec toi, avec Perico, que là, pour moi, là, ça fait partie de ceux qui produisent le système, qui l'assument. D'accord, mais ça, il y en aura toujours. Mais est-ce que pour les 1% qui comme lui, profitent du système, il faut changer les règles pour tout le monde et qui fait que quand il y en a qui se cassent vraiment la gueule, ils vont plus rien avoir. Moi, je pense pas.
On vous a posé la question sur les réseaux sociaux, Thibault. 35% des salariés préfèrent être au chômage plutôt que malheureux au travail. D'accord, pas d'accord?
D'accord pour 57% d'entre vous. Vous êtes 43% à penser que...
Eh, Perico, moi, je suis surpris par ce résultat. Heureusement qu'on était deux.
Il n'y a pas de raison de se priver. Ouais. 57, c'est raisonnable. Hein. C'est pas 70.
Allez.
Non, je trouve que ça en dit long aussi, vu qu'ils écoutent RMC et les boulots que font les personnes qui bossent sur RMC, sur les conditions de travail.
Absolument.
Ça veut dire que la valeur travail en France.
Et ça rejoint notre premier débat aussi.
Est malade.
Mais non,
ça veut dire que la valeur travail en France est malade. On arrête de date,
mais je pense, on va conclure là-dessus, mais je pense
que le travail est une valeur.
Je pense, Perico, aussi que ça relève d'un certain état d'esprit des Français à l'heure actuelle.
Bien sûr.
C'est-à-dire qu'un certain ras-le-bol, ça suffit.
Il faut sans doute repenser le travail.
Voilà, exactement.
Et repenser les parcours professionnels.
Allez, dans un instant, c'est le meilleur du jour sur RMC, c'est notre zapping. On se retrouve tout de suite dans Estelle Midi sur RMC et RMC Story. À tout de suite.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Rémi Barré.
Estelle Midi, tous les jours, midi 15h sur RMC et sur RMC Story. C'est le canal 23 de la TNT. Vous voulez le meilleur du jour sur RMC, c'est tout de suite.
RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
Le zapping, on commence avec Charles Matin. Notre pouvoir d'achat va-t-il encore se dégrader? Hier, l'Assemblée nationale a voté une proposition de loi qui permet aux industriels d'imposer leur prix à la grande distribution en cas d'échec des négociations. Un vrai risque pour les consommateurs. C'est en tout cas ce que pense Alain Bazot. Il est président de l'UFC Que Choisir. Il était sur RMC ce matin.
Si on s'achemine, comme vous le disiez, vers soit une pénurie, parce que personne ne cède, donc on ne peut pas imposer à la grande distribution de vendre quelque chose qu'elle ne veut pas vendre, et puis on ne peut pas imposer aux industriels un prix plus bas qu'ils ne le voudraient, mais de là à ce que l'industriel, ces grandes multinationales, imposent des prix à la grande distribution, clairement, si on va vers ça, les consommateurs seront extrêmement perdants.
Alain Bazot, le président du UFC Que Choisir ce matin sur RMC. Alors, Perico Légas, cette proposition de loi, elle a été votée en première lecture, ça ne veut pas dire qu'elle ne s'est pas encore entérinée, mais c'est un vrai risque pour nous, consommateurs.
Une conquête pour le consommateur.
Ah, une conquête?
Mais oui, vous n'imaginez pas les méthodes de la grande distribution qui se fait passer pour les amis des pauvres. Voilà, ils engrangent des bénéfices énormes en imposant des tarifs aux industriels qui les répercutent sur les producteurs. Donc là, la loi Egalim rentre dans son sens. Il y a un seuil au-dessus duquel on ne peut pas vendre parce qu'il faut payer le juste prix à celui qui produit et celui qui transforme. Et jusqu'à présent, la grande distribution, très hypocritement, dans les négociations de février, imposait ses tarifs sur un chantage ignoble en disant, voilà, vous avez 2 heures pour choisir. Si vous ne vendez pas vos yaourts à 60 centimes, hein, eh ben j'irai voir quelqu'un d'autre. Donc l'industriel, qu'est-ce qu'il fait? Il baisse ses prix pour garder le marché, il baisse la qualité et il impose à l'agriculteur de lui vendre des produits encore moins chers. Qui paye au final? Le consommateur, qui paiera le même prix à la grande distribution, et le producteur. Et les grandes firmes, de grands distributeurs, vous disent, voyez, on a défendu l'intérêt du pauvre, votre pouvoir d'achat.
Alors, comment tu interprètes la réaction du président du UFC Que Choisir?
Parce qu'il a peur, effectivement, aujourd'hui, il a peur que la grande distribution se prévale de ça pour dire la grande.
C'est pas notre faute.
L'industrie, c'est pas nous,
faute, c'est les industriels.
Eh ben, on s'expliquera avec eux le moment venu. Il y aura des lois. On pourra relégiférer.
Moi, merci, très aligné avec Perico sur ce coup-là. Je trouve que la grande distribution joue double jeu depuis bien trop longtemps et se fait des marges.
Je ne vais pas parler que de lui, mais enfin,
Michel Leclerc, surtout un certain leader.
Tous nous disent, on est là pour
les
mousquetaires, tout ce que tu veux, ils sont là pour la défense du consommateur. Donc,
oui, il y a une initiative qui m'intéresse vachement, ça s'appelle C'est qui le patron, certains reconnaîtront peut-être, qui est une coopérative de consommateurs, où pareil, ils imposent leur prix à l'ensemble de la grande distribution, ça se passe très bien, il y a zéro pub, c'est aujourd'hui sur le lait, la bouteille de lait la plus vendue. Donc oui, c'est possible de faire de la distribution et de la vente de produits de qualité où on paye correctement les producteurs et où, en tant que consommateur, on arrive à payer correctement les choses et on sait qu'on mange pas de la merde.
Pierre-Edouard,
Oui, j'entendais Perico dire un équilibre à maintenir. Effectivement, moi j'en ai un peu ras-le-bol de voir effectivement, notamment Michel-Édouard Leclerc venir nous jouer le chevalier blanc des pauvres consommateurs. C'est quand même à mourir de rire. Pourquoi pas la famille Mullier avec Auchan? Parce que c'est vrai que les pauvres défendus par les milliardaires, quel bel bon retournement de la société. Non, il faut effectivement remettre de l'ordre là-dedans. La point de départ et la priorité, ça reste le producteur. Parce que moi, ce que j'ai peur, c'est que dans les guerres entre la grande distribution et l'industrie agroalimentaire, finalement, le dindon de la farce, c'est le producteur.
Toujours.
Qui est normalement au début et qui se retrouve au milieu. Donc, après, je n'irai pas sur le terrain de Perico, il connaît mieux que ça et je suis assez sensible à ce qu'il vient de développer. En tout cas, effectivement, il y a un moment où on ne peut pas continuer de payer de moins en moins cher, mais cela dit, pour que le consommateur puisse payer un juste prix, on en revient toujours là, c'est la question du revenu, c'est la question des salaires et c'est la question du partage des richesses. Parce que quand on est consommateur, tout le monde est d'accord pour payer le juste prix au producteur. Personne va dire, non, ils nous font chier, bon, on les écrase. Sauf qu'à un moment, on finit des fois par aller acheter de la merde parce que les gens n'ont pas les moyens d'acheter autre chose que de la merde. Et c'est ça qui est dramatique dans le pays dans lequel on vit.
Apolline Matin, notre pays va-t-il devenir un pays low cost? En tout cas, on reste dans le domaine de l'alimentaire. Le 1er mars, un nouveau réseau de supermarchés low cost va ouvrir en France. Il s'appelle Tout Juste et annonce des prix inférieurs de 5 à 10% par rapport à la concurrence. Mais comment peut-il ou arrivera-t-il à tenir cette promesse? Les explications d'Emmanuel Le Chypre.
Eh ben parce que l'enseigne compte supprimer autant que possible les intermédiaires et travailler directement avec les producteurs. Pour ça, elle va faire entrer ses fournisseurs au capital de la société qui chapote ses magasins Tout Juste. Un quart du capital de la société sera aux mains des fournisseurs qui seront donc copropriétaires de l'enseigne, de quoi les inciter à privilégier la marque, tant en termes de tarifs que d'offres. Alors, l'idée est séduisante sur le papier, à condition que tout le monde joue le jeu, évidemment, et accepte de travailler avec la jeune enseigne. C'est le cas de beaucoup de PME, malgré la pression des concurrents. Ce sera moins facile, évidemment, pour négocier avec les géants de la agroalimentaires comme Coca-Cola ou Nutella.
Mathilde Dimère, super idée, non?
Ça me semble une super idée, à voir ce que ça donne. À voir ce que ça donne sur le terrain.
Tu parlais de qui est le patron tout à l'heure, des producteurs de lait. Ça serait un magasin où il y aurait que ça. Quoi.
La grosse différence, ce que j'aime bien moi dans c'est qui le patron, c'est que c'est les consommateurs qui décident, qui fixent. C'est quels sont les critères pour choisir le projet, quel est le prix, et qui se mettent d'accord entre eux. Là, j'ai un petit doute sur qui est derrière ça, qui va vraiment décider. Donc j'attends de voir, mais sur l'esprit de réduire le nombre d'intermédiaires qui se mettent de l'argent dans les poches au passage, moi je trouve ça très bien.
Perico.
On est au niveau de l'initiative et d'expérience, elle va dans le sens de l'histoire. Voilà, alors il faudra qu'on...
Non, mais ça veut dire quoi, qu'on fait disparaître les industriels alors?
Ah non, 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 donc, on se fournit directement aux producteurs ou aux industriels.
Bah oui, mais enfin, les industriels... La marque Tout Juste, c'est bien quand même. Après, c'est un distributeur.
Oui.
Qui, on supprime les intermédiaires, qui va se fournir directement
chez le producteur.
Ah oui,
mais l'industriel peut être producteur aussi. Voilà.
Oui,
le producteur,
oui,
le producteur, on va aller chez les agriculteurs directement, en disant. Enfin, mais si un gros industriel, si Danone veut proposer ses yaourts ou Nestlé veut proposer des produits, libre à eux. Mais il faudra qu'ils rentrent dans le cadre.
Il faudra s'aligner.
Oui, mais ils s'aligneront sur quelqu'un qui revendra directement le produit au consommateur. Ouais. Pas un distributeur qui va jouer l'intermédiaire. Voilà.
Absolument.
C'est tout.
Pierre-Edouard.
En fait, c'est un distributeur qui supprime l'intermédiaire de distribution.
C'est ça.
Vous pouvez faire une... Après, moi, ce qui me plaît bien, c'est la démarche, effectivement. Alors là, c'est les fournisseurs. Ce serait bien qu'ils aillent au bout. On parlait... Quand on dit le sens de l'histoire, les coopératives de consommateurs, je rappelle que ça a 200 ans. Hein, donc, moi, c'est le sens de l'histoire que j'aime bien.
Ça a mal fini quelquefois.
Mais évidemment, mais comme toute entreprise humaine, tout n'est pas garanti sur facture. Cette démarche collective, cette démarche d'associer les gens, que tout le monde ait un intérêt, c'est-à-dire que cesser d'être uniquement un client pour devenir un adhérent, y compris quand il s'agit des fournisseurs, c'est forcément toujours une bonne chose. C'est la différence entre une mutuelle et un assureur. Et c'est la différence, effectivement, entre un supermarché, une coopérative, ou de commerçants, ou de consommateurs, parce qu'il y a aussi des coopératives de commerçants. C'est tout de suite plus intéressant, forcément plus responsable.
C'est un début d'autogestion. Et pour moi, c'est une valeur économique qui me va très bien. Voilà, si elle est encadrée, bien entendu. Voilà. Je crois.
On va voir à l'usage.
Oui, on sera tous les trois d'accord sur ce plateau. Alors.
Bon, ça arrive. Apolline Matin, faut-il renforcer la sécurité des femmes en 2019 en Corse, malgré 6 plaintes déposées? Julie Douib a été assassinée de 3 balles par son compagnon. C'était donc en 2019. Aujourd'hui débute son procès, le procès en appel de cette affaire. Témoignage ce matin sur RMC de Lucien. C'est le père de Julie. Il déplore encore le manque de protection dont bénéficient les femmes soumises aux violences conjugales.
J'ai eu la chance, entre parenthèses, d'ouvrir le Grenelle.
Bien sûr.
Et on nous avait promis des choses qui bougent. C'est vrai que le gouvernement a formé des gendarmes en leur donnant des instructions bien précises. Il y a eu les bracelets électroniques, les femmes sont plus à l'écoute. Mais le problème, il est le même. C'est-à-dire que quand une femme sort d'un commissariat de police, elle est toute seule. Alors heureusement, il y a des associations qui font un travail de fou et il faut les remercier. Mais encore une fois, une femme qui sort d'un commissariat de police et qui a eu le courage d'aller porter plainte, on peut pas la laisser sortir toute seule parce que de toute façon, elle a pas 50 solutions. Soit elle retourne chez elle et il arrive ce qui est arrivé à Julie, soit elle se retrouve dans la rue toute seule. Donc je pense que la première solution, c'est de les accompagner et de les protéger.
Parce les que protéger. Hommes,
s'ils ont quelque chose dans la tête, de toute façon, ils le feront. C'est, il faut vraiment protéger ces femmes et je pense que bah, si on avait écouté un peu plus Julie, peut-être qu'elle serait encore là. Voilà.
Il est touchant ce témoignage du père de Julie, Pierre-Édouard. Il faut mettre le paquet là. Mais ça nécessite des budgets, forcément, c'est des moyens à mettre en place.
Oui, enfin, il y a deux choses qui sont encore problématiques, c'est et les moyens d'une part, mais ça peut être réglé rapidement, et les mentalités d'autre part, ouais. Parce qu'il y a encore du chemin à faire. Du chemin a été fait. D'abord, aujourd'hui, le sujet, il existe médiatiquement. Et c'est déjà important, je veux dire, il y a encore 20 ou 30 ans, il existait à peine médiatiquement. Aujourd'hui, le sujet, il existe. Quand je dis médiatiquement, c'est au sens large, je ne parle pas que des médias audiovisuels, mais au sens large, le sujet, il existe. Ce qui est déjà effectivement un point. Après, il y a effectivement besoin de moyens. Et notamment, le vrai sujet, c'est effectivement, quand une femme franchit ce pas, déjà qu'elle arrive à porter plainte, que sa plainte est prise en compte, parce qu'il y a aussi du progrès de ce côté-là, mais il y a quand même encore du chemin à faire. Admettons que cette étape-là soit faite, il faut immédiatement qu'elle soit prise en charge, en termes de logement, en termes de revenus.
Mais donc, c'est
la
moyens,
situation
c'est
des
énorme,
enfants, c'est évidemment des moyens, parce que si on a le choix qu'entre le logement violent ou la rue qui est non moins violente, ouais. Et a fortiori pour les femmes, parce qu'il faut quand même savoir ce que c'est que la vie d'une femme, la vie dans la rue en général et la vie d'une femme dans la rue. Donc évidemment que ça nécessite des moyens, surtout ce qui changerait notamment, c'est aussi une réactivité extrêmement forte, parce que si on dit oui, il y a des solutions, mais ça va mettre 2 mois à se mettre en place, ouais. C'est comme si on ne faisait rien. Ouais. Donc évidemment, il faut mettre le paquet sur les moyens. C'est un sujet de, je dirais, de sécurité publique, de santé publique, d'humanité tout simplement. Et derrière, évidemment, il y a ce travail des mentalités qui est extrêmement fort, parce que quoi qu'on en dise, même si du chemin, je le répète, il faut le dire, a été fait, c'est incontestable, il y en a encore beaucoup à faire. Les violences conjugales, c'est pas un truc anodin, c'est pas juste une femme qui nous fait un peu chier. C'est bien, c'est un crime, d'abord, c'est un crime, et comme tous les crimes, il est inadmissible. Et avant même la punition, il y a déjà effectivement, les actions doivent être prises en place pour que cette femme soit mis sous protection.
Perico Légas.
Le nombre de tragédies précisément qui ressemblent à ce cas-là commence à devenir insupportable. Mari récidiviste, violent, condamné. La femme va au commissariat. Je pense à cette femme qui s'est fait brûler vive par son mari alors que elle avait porté plainte. Le mari qui avait été condamné. Voilà, une femme qui va porter plainte contre son mari récidiviste, elle met sa vie en jeu. Alors elle est accueillie avec plus ou moins de sérieux au moment de sa plainte. On note ça comme une formalité, on la laisse repartir et elle se fait buter. En France aujourd'hui, ça serait 1 ou 2 cas. Le nombre de cas qui se répètent dans cette condition-là, je dis pas la première plainte, je parle d'une plainte avec récidive, c'est inadmissible. Et là, je comprends pas comment l'État, comment le ministère de l'Intérieur, et je suppose qu'ils sont très soucieux aussi, comment on peut en arriver là? Est-ce qu'il y a un manque de formation des policiers? Est-ce qu'il y a un manfoutisme? Est-ce que finalement, une flamme qui se fait battre, c'est un peu la routine, puis on attend qu'elle soit morte pour dire merde, c'est vrai, on aurait pu s'en occuper. Enfin, le nombre de tragédies qui se sont multipliées, c'est indigne pour ce pays. Des pays comme l'Espagne qui ont été confrontés ont trouvé une solution. Je comprends pas que la France puisse avoir autant de retard sur cette urgence-là aujourd'hui.
Mathilde Dimer.
Moi, je suis complètement d'accord. Enfin, franchement, je sais même pas quoi dire. En fait, en 2023, on en est encore là. Je suis heureuse d'entendre ce témoignage de quelqu'un qui dit exactement ce que disent les associations féministes, qui aujourd'hui, sur ce sujet-là, font le boulot de l'État.
Ça ne va pas exister.
Quand elles accueillent elles-mêmes les femmes qui sortent du commissariat, qui viennent de porter plainte, quand elles font le travail de suivi. Mais normalement, ça, c'est à l'État de le faire. Comment ça se fait que l'État ne prenne pas en charge ces femmes aujourd'hui et qu'on en arrive à des drames comme ceux-là qui choquent?
Parce qu'il faut de l'argent. Tu sais,
il en faut combien, en fait?
On en a.
Il en faut combien?
Et on le met pas forcément
mais
là.
Oui, il y a un moment, c'est des choix aussi.
Des semaines, un pognon dingue.
Le message
qu'on a envoyé quand dingue, même mais pas là où il faut.
Aux femmes, quand on dit c'est un choix de là où on met l'argent, c'est un peu on en a rien à foutre de vous. Et ça, je trouve ça grave. Donc à un moment, il y a peut-être un équilibre à trouver sur là où on met l'argent et évidemment continuer, poursuivre, renforcer la formation de la police sur cette question-là. Ça avance, il y a des commissariats. On peut porter plainte sans aucun problème aujourd'hui.
Allez, dans un instant, la suite, c'est d'Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Vous pouvez évidemment nous réécouter tout au long de la journée par podcast sur le site rmc.fr. Et dans un instant, c'est le rendez-vous des notaires. J'ouvre un commerce. Est-ce que je mets en danger mon conjoint? Est-ce que je lui fais prendre des risques? Ah oui, parce que si je fais des dettes, on va en parler dans un instant.
Ça dépend de son contrat.
C'est tout de suite dans Estelle Midi sur RMC et RMC Story, le canal 23 de la TNT. À tout de suite.
RMC Estelle Midi. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Rémi Barré.
Estelle Midi, tous les jours, midi 15h sur RMC et RMC Story, le canal 23 de la TNT. Tout de suite, c'est le rendez-vous des notaires.
RMC, Estelle Midi.
Les notaires vous répondent.
Les notaires vous répondent avec aujourd'hui Maître Bernard Savouret. Bonjour Maître.
Bonjour Rémi.
Vous êtes notaire à Paris, premier vice-président du CSN, le Conseil
supérieur du notariat.
Et vous êtes là pour répondre à cette question de Carole. Elle a 43 ans. Elle nous dit, mon mari et moi sommes mariés depuis 7 ans. Sans être passé par un notaire. Vous allez me dire tout de suite, c'est une erreur. Bon, ça je le sais déjà. Aujourd'hui, je souhaite créer ma propre entreprise de bijoux. Est-ce que mon époux sera impliqué dans cette entreprise ? Faut-il que nous allions voir un notaire ?
Alors, c'est une bonne question parce qu'on l'a fréquemment dans nos offices.
On a que des bonnes questions.
Au quotidien, voilà, oui, absolument. Donc, la question c'est, est-ce que mon époux sera impliqué dans la vie de mon entreprise ? La réponse est oui. En fait, ils sont mariés sans contrat, ça veut dire qu'ils sont mariés sous le régime de la communauté. C'est ce qu'on appelle le régime légal. Le régime légal, ça veut dire que toute l'industrie, tout le fruit du travail de deux époux dans un couple marié en communauté est commun. C'est-à-dire qu'il y en a un qui travaille pas, qui gagne beaucoup, pas beaucoup, tout est mis en commun. Donc, quand Carole va constituer son entreprise, son entreprise va être commune avec son mari. Qu'est-ce que ça veut dire sur le plan pratique ? Ça veut dire que, par exemple, si elle doit signer un bail, il faudra l'accord de son mari pour mettre ses locaux. Si elle veut faire un emprunt à la banque, il faudra l'accord de son mari.
Et donc, d'accord, ça veut dire que lui, il signe ?
Ça veut dire que lui devra signer aussi.
Ouais, d'accord, et donc il s'engage.
Alors, il s'engage aussi.
Au même titre qu'elle.
Exactement. Ouais. En fait, il s'engage. C'est surtout qu'elle doit demander l'accord de son mari pour elle-même faire ses propres contrats, en
d'accord.
fait.
D'accord, ok.
Ils sont associés, si je comprends bien.
Ouais. Ils sont associés de fait. Et non seulement de fait, mais même de droit, parce que si cette dame, si Carole veut constituer une entreprise pour régir son commerce, en fait, et bien son mari a automatiquement un droit de devenir associé. Même si elle veut pas le mettre dans sa société, lui a un droit de l'exiger, en fait. Hein. Ça, c'est le principe de la communauté. Et puis, il faut pas oublier, c'est très important pour Carole de le savoir, c'est que tout le fruit, toute l'expansion de l'entreprise, toute la valeur économique de cette entreprise sera partagée.
Donc on va imaginer des scénarios pas très réjouissants. Mais ouais. Bon, imaginons que l'entreprise marche très bien. On va prendre cette première option. L'entreprise marche très bien, elle fait voilà, il y a beaucoup d'argent, etc. Tout va bien. Mais ça se passe moins bien entre Carole et son mari. Et un jour, il veut se séparer. Ils veulent se séparer. Il part avec la moitié d'entreprise ou pas ?
Il part avec la moitié d'entreprise. Ouais. Mais il part avec la moitié d'entreprise au même titre que Carole a droit à la moitié de l'ensemble de la communauté.
Ouais,
c'est pas que sur l'entreprise.
D'accord.
Donc oui, il a droit à
même
la moitié.
Même si lui n'a fait que signer, s'engager, et puis que c'est elle qui a travaillé.
C'est la communauté. L'esprit de la communauté, c'est ça. Ça correspond d'ailleurs très bien à beaucoup de gens. Hein. C'est qu'on met tout en commun. Voilà. Donc évidemment, à un moment donné, si Carole a un commerce qui marche très très bien, elle regrettera peut-être d'être en communauté. Et c'est à ce moment-là peut-être qu'il faut anticiper, c'est-à-dire qu'au moment où elle va créer son entreprise, et que de se poser la question, est-ce qu'il ne faut pas modifier son régime matrimonial ? Parce que c'est possible de changer de règles du jeu.
Justement, de façon, la réponse je l'ai déjà, j'imagine. Pareil, autre scénario, ça se passe très mal pour l'entreprise. Elle accumule les dettes, etc. Ça ne va plus du tout. Le mari, il devra payer comme elle.
Voilà, c'est le principe de la communauté. Quand il y a du bon, c'est bien. Quand il y a du moins bon, c'est partagé aussi.
Donc le conseil à donner à Carole et à son mari, qu'est-ce qu'il faut faire là ?
Alors d'abord, il faut. Moi, je pense que la meilleure chose, d'abord, c'est de justement à ce moment-là, maintenant, d'aller voir un notaire pour avoir une espèce de diagnostic global de la situation. Parce que peut-être que la communauté lui convient très bien. Peut-être qu'elle veut justement partager les fruits de son entreprise parce que c'est un accord avec son mari. Peut-être que ça leur va bien. Peut-être que ça ne leur va pas. Et si ça leur va pas, il y a plusieurs choses à faire. D'abord, on peut changer de régime matrimonial. C'est assez facile de changer de régime matrimonial. Ça l'était pas et ça l'est devenu.
En cours
de mariage.
Ah, tiens, oui.
C'est pas très compliqué. Première chose. Deuxième chose, on peut aussi conseiller peut-être à Carole de se mettre en société. Parce qu'en société, au moins, elle va préserver les risques qui seront limités à la société et non pas étendus sur le reste du patrimoine. Et peut-être qu'elle peut, à cette occasion-là, demander à son mari de s'engager à ne pas demander de participation dans la société. Participation juridique. Donc voilà, il y a quand même des choses à faire au moment où elle crée son entreprise qui sont plus ou moins importantes selon leur philosophie de mariage, en réalité. Hein,
donc, ou séparation vient dès le départ, les choses sont claires. Sinon, la communauté est réduite aux acquis.
Voilà.
Pour le meilleur et pour le pire, si je comprends.
Pour le meilleur et pour le pire, exactement. C'est exactement ça.
Une question très pratique. On peut changer de contrat matrimonial en cours de mariage.
Oui.
On va voir son notaire, on lui explique la chose, on fait le diagnostic avec lui, etc. Ça coûte cher ou pas ?
Alors, ça coûte pas très cher.
C'est une question pratique. Hein.
Oui.
Parfois, vous savez, on a peur d'aller, alors qu'on en aurait peut-être besoin, on a peur d'aller voir un avocat.
on a peur d'aller voir un notaire parce qu'on se dit ça va me coûter très cher.
Ouais. Alors d'abord, le fait d'en parler, ça coûte rien. Parce qu'en fait, on peut avoir le conseil, on peut faire le diagnostic, réfléchir à la situation, et ça, ça coûte rien. Après, la mise en œuvre du changement de régime matrimonial, c'est comme ça que ça s'appelle, ça va dépendre s'il y a du patrimoine ou pas. S'il n'y a pas de patrimoine, et s'il s'agit juste de changer la règle du jeu, par exemple, pour l'avenir...
C'est Carole, elle n'a pas encore ouvert sa boutique,
voilà. Par exemple. Donc ça coûte très peu cher. Ça coûte les frais d'acte, etc. Ça peut coûter un enregistrement, 125 euros, des choses comme ça. Ça coûte peu cher. En revanche, s'il y a du patrimoine et qu'à cette occasion-là, où il faut le transférer, où il faut le partager, là, il y a des transferts de patrimoine, c'est un peu plus coûteux.
Mais on a bien compris qu'en tout cas que ça peut valoir le coup.
Il y a juste une petite étape, faut que les deux soient d'accord.
Obligé.
Ou alors
changer la règle du jeu.
Ou alors le notaire les met d'accord, tu sais, par contre, avec ses bons conseils.
On arbitre.
Bon, merci Maître Bertrand Savouret d'avoir été avec nous. Vous êtes notaire à Paris, premier vice-président du CSN. Dans un instant, la suite d'Estelle Midi sur RMC. Tiens, un autre acronyme, ZFE, chasse au diesel, route dégradée. L'État sacrifie-t-il les automobilistes dans notre pays? Je sais que ça va vous faire réagir. Pour cela, vous prenez votre téléphone, vous composez le 3216. C'est tout de suite dans Estelle Midi sur RMC et RMC Story. À tout de suite.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.